Mets le micro, s'il vous plaît, celui-là. Alors, bonsoir et bienvenue encore une fois dans cette réunion que nous avons où nous allons aborder une conférence dont le thème « Êtes-vous une bonne personne? » Alors, cette semaine, nous avons fait beaucoup de porte-à-porte. Nous avons rencontré les gens, nous avons pu parler avec les gens et je dois dire qu'en tant que Canadien-Français, les Belges sont extraordinairement bien éduqués, bien élevés. Ils nous ont reçu avec politesse. Les Belges, ils sont ouverts à discuter de ces thèmes qui parlent finalement de l'existence, non seulement pour le maintenant, mais aussi pour l'éternité. Il y a des gens qui croient en rien. On laisse la liberté aux gens de ne rien croire. Il y a des gens qui croient différentes choses à travers différentes philosophies. Il y en a d'autres qui croient que Dieu existe. Il y en a d'autres qui pensent que ce n'est pas la faute de Dieu tout ce qui se passe dans ce monde. Dieu est toujours au ciel, et s'il y a des guerres et ainsi de suite, ce n'est pas Dieu qui est au volant des avions ni dans les chars d'assaut pour tirer sur les gens, ce sont les hommes. Et si c'est votre premier contact avec l'Évangile ce soir, j'aimerais simplement vous dire ceci pour vous mettre bien à l'aise. Le monde dans lequel on vit, ça m'a aidé énormément à trouver finalement ma joie et ma paix, cette joie et cette paix que j'ai tant cherchée pendant des années, jusqu'à l'âge de 33 ans. J'ai rencontré un premier chrétien qui m'a dit, écoute, le monde dans lequel on vit, ce n'est pas le monde que Dieu a créé, c'est le monde que l'homme a voulu avoir sans Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, parce que quand on lit la Bible nous dit clairement que Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre éternellement sur la terre. Si vous allez voir les scientifiques, aussi avancés qu'ils peuvent être, eh bien, ils ne savent pas, ils sont incapables d'expliquer pourquoi l'être humain vieillit, pourquoi il y a un processus de vieillissement en nous, et pourquoi finalement on finit par tous mourir. Mais la Bible a des réponses à toutes ces questions-là. Alors, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Malheureusement, le jour où il a désobéi à Dieu, où il a dit, ben moi, je veux tirer mon plan comme je veux, j'en ai rien à cirer de toi. Eh bien, le Seigneur, par amour, a laissé l'homme et la femme prendre cette grande liberté, cette grande responsabilité aussi. Et malheureusement, la Bible nous dit que la mort est entrée dans le monde, et le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort, et on vit les conséquences de la décision de l'homme. Alors, je tiens simplement à vous rappeler, pour ceux qui n'ont jamais vécu ou qui n'ont jamais entendu l'Évangile, que ce qui se passe présentement depuis des milliers d'années, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. Et quand on aime, on force pas, on ne commande pas les gens. Et Dieu, bien dans son amour, a laissé l'homme prendre sa décision en toute liberté, mais aussi, il avait déjà dit à l'homme les conséquences de cette décision. Et c'est incroyable quand on pense que l'homme vivait dans un paradis terrestre, que l'homme ait pu accepter de vivre un enfer sur la terre, entre guillemets, pour être son propre Dieu. Et on voit le chaos dans lequel on baigne sur la terre et ce n'est pas terminé. La Bible, elle est claire. La Bible, elle est remplie de prophéties. Il en reste quelques-unes encore à se réaliser. Mais la Bible, elle est claire. Et tout ce qu'on voit à l'extérieur, moi, j'en suis pas surpris, puisque la Bible en parle depuis des milliers d'années. Et ça n'ira pas en s'améliorant. La Bible dit que le mal va se répandre partout sur la terre. Les gens vont être dans la crainte, les gens vont être dans la peur. Mais je ne suis pas ici pour vous faire peur ce soir, je ne suis pas ici pour vous amener à paranoïer non plus. Je suis ici pour vous partager une bonne nouvelle, je suis ici pour vous dire que Dieu vous aime. Malgré tout ce que vous pouvez penser de Dieu, eh bien, Dieu vous aime. Et j'aimerais simplement, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le vécu que vous avez, eh bien, peut-être que les expériences du passé ont fermé votre cœur aux choses de Dieu. Je vous invite simplement ce soir je ne dirais pas à donner une chance à Dieu, mais à vraiment à saisir cette opportunité que Dieu vous offre dans ce lieu ce soir pour entendre son message. Simplement ouvrez votre cœur à Dieu. Je suis persuadé, comme Dieu l'a fait avec moi il y a 34 ans, que Dieu va parler à votre cœur. Et mon plus grand désir, eh bien, c'est que vous puissiez sortir d'ici enrichi de la connaissance de Dieu, mais surtout de la connaissance de celui qui est Dieu fait homme, la personne de Jésus-Christ, et que vous sortiez d'ici avec cette paix et cette joie que le monde cherche tant depuis des milliers d'années, et qu'on ne peut trouver uniquement qu'en la personne de Jésus-Christ. Alors, il est généralement admis que les gens ont une très haute opinion d'eux-mêmes et que lorsqu'ils sont en compagnie de d'autres personnes, ils cherchent à se montrer sous leur meilleur jour. Nous vivons dans une société qui, dès notre plus tendre enfance, nous a appris à vivre en fonction des apparences. Alors, nous devons bien paraître, nous devons faire bonne impression si nous voulons gagner la sympathie des gens, et ou nous faire aimer d'eux. Je me souviens, quand j'avais 5 ans, il y a un monsieur qui avait... Alors, je fonctionnais pas pour plaire aux gens, ni en fonction des apparences à 5 ans, je connaissais pas ça. Et il y a un monsieur qui est sonné à notre porte un jour, ma mère était occupée au deuxième, alors elle m'a crié d'aller répondre, et le monsieur, quand je l'ai vu, je connaissais pas son nom, et elle a osé crier, ma mère, c'est qui? Hein? J'ai dit, c'est un monsieur avec un gros nez. Alors, on ne dit pas ça, hein? On ne dit pas ça. En tout cas, quand on est adulte, on a appris à ne pas dire ça. Et là, ma mère, toute confuse, toute honteuse, est descendue en courant. Mais Jacques, il n'y a pas un gros nez, le monsieur-là, essayé de me racheter, hein? Mais on est éduqué dès notre plus tendre enfance à vivre en fonction des apparences. L'opinion que les gens ont de nous, c'est extrêmement important. Notre réputation, elle est extrêmement importante. Et celui qui s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, eh bien, a accepté de perdre sa réputation pour des gens comme nous. Pardon. Il faut dire que, règle générale, la plupart des gens ont une très bonne opinion d'eux-mêmes, à un tel point que lorsque vous demandez aux gens de vous énumérer trois qualités qu'ils possèdent, et si je vous passais un papier ce soir, avec un crayon, que je vous demandais, écrivez-moi trois qualités que vous avez. Probablement, comme moi, ça va très, très vite marquer les trois qualités. Mais on a tellement de bonne opinion de nous-mêmes que si je vous demandais par après d'écrire trois défauts que vous avez. Moi, j'ai déjà fait le test dans certaines églises, hein, avec certaines personnes. Hein. Il y en a, si vous savez ce qu'ils trouvent comme défaut, trop honnête, trop humble. C'est pas des défauts, ça. Hein? C'est pas des défauts. Mais on a une très, très haute opinion de nous-mêmes et qui fait en sorte qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des défauts qu'on peut avoir. Par exemple, si vous demandez à des gens ce qu'ils doivent faire pour entrer au ciel en supposant qu'ils croient qu'il y a une vie après la mort, la plupart vous répondront qu'il faut être une bonne personne. Et c'est intéressant dans le porte-à-porte cette semaine où les gens qu'on a rencontrés sur la rue au parc de la Beauvrie, les réponses qu'on a obtenues sur l'opinion que les gens ont d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est? Moi, je disais, on donnait le feuillet qu'il y en a qui sont ici ce soir, qu'ils ont reçu dans leur boîte aux lettres. On leur montrait, êtes-vous une bonne personne? On disait, c'était le thème de la conférence et on leur disait, comment définissez-vous une bonne personne? Et on avait toutes sortes de réponses, mais finalement des réponses que les gens nous donnent pour se protéger, c'est-à-dire quelqu'un qui ne me fait pas de mal. Alors, je disais, oui, mais quelqu'un qui vole, est-ce que c'est une bonne personne? Ah non, c'est pas une bonne personne. Et quelqu'un qui ment, est-ce que c'est une bonne personne? Ah non, c'est pas une bonne personne. Alors, je disais, est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Oui, mais elle venait de me dire qu'une personne qui mentait, c'était pas une bonne personne. Alors, elle me disait, bien, mais des petits mensonges, hein? Il y a des petits, des moyens et des gros, hein? Mais les gens, c'est pour vous dire que les gens ont pas facilement, ils souffrent pas facilement pour nous dire, pour nous partager nos défauts et leurs qualités. Et la plupart des religions, si ce ne sont pas toutes les religions et les différentes, les différentes philosophies du monde, ont comme fondement des règles de conduite bien définies qui sont supposées de vous donner une bonne réponse. Et ces règles, si vous les mettez en pratique, vous permettent d'espérer un jour d'entrer au ciel. Il vous suffit d'obéir aux 10 commandements ou de suivre différents principes ou certaines règles mises en place par différents experts du comportement ou par certains philosophes. Mais est-ce bien cela qu'enseigne le christianisme? Je ne suis pas en train de parler de la religion chrétienne, je suis en train de parler du vrai christianisme. Le vrai christianisme, ça ne concerne pas des règles, ça ne concerne pas des principes, ça concerne une personne. Et en Belgique comme au Québec, il y a peut-être 95% de catholiques non pratiquants, comme au Québec, et on met tout l'accent sur la religion. Mais ce soir, j'aimerais vous parler non pas de la religion, mais d'une relation personnelle et intime que vous pouvez avoir avec Jésus-Christ. Et pourquoi vous pouvez avoir cette relation avec Jésus-Christ? Parce qu'on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, on est en train de parler de quelqu'un qui est encore vivant aujourd'hui parce qu'il a vaincu la mort. Et ce qu'il a prêché pendant toute sa vie, qu'il y avait après une vie après la mort, il a été celui qui nous a démontré qu'il y avait une vie après la mort. Jésus-Christ est le seul, le premier qui a vaincu la mort. Et il a dit que tous ceux qui plaçaient leur confiance en lui un jour pour le pardon de leurs péchés, il les ramènerait un jour de la mort à la vie en leur donnant un corps nouveau, dont la maladie, dont la mort ne pourrait plus les atteindre, et qu'il les ramènerait de la mort à la vie. Moi, c'est un message qui m'interpelle, ça. Moi, quand on me dit que je suis descendant du singe, que je suis un ancien mangeur de bananes, moi, ça me dérange, hein. Moi, je pense qu'on vaut plus que ça en tant que chrétien, hein. Vous écoutez les reportages scientifiques, vous avez l'impression que les scientifiques, ils étaient là il y a 100 milliards d'années, hein. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'accrochent à ça, mais avez-vous remarqué que les scientifiques remettent toujours en question leur théorie? Et pourtant, ici, on a quelque chose qui a été écrit des milliers d'années, que même les scientifiques sont obligés de dire qu'ils sont incapables de contredire. Même le récit de la création, les scientifiques disent que si ça n'avait pas été écrit de cette façon-là, il est impossible que la Terre, qu'il y ait une vie qui puisse avoir sur la Terre, qui puisse avoir lieu sur la Terre. Alors, moi, je me demande, après 3000 ans, 3500 ans, comment un homme aussi ignorant pouvait-il à l'époque, comment pouvait-il décrire la création alors qu'ils n'avaient aucune connaissance de quoi que ce soit au niveau scientifique? C'est parce que Dieu l'a révélé à quelqu'un, Dieu l'a révélé à Moïse, et Moïse a mis par écrit. Et c'est extraordinaire. On décrit la Bible, on la dénonce, On essaie de la démolir, mais il faut prendre le temps de la lire et là, on s'aperçoit que c'est surnaturel. C'est pas un homme qui a écrit ça. D'abord, c'est pas un livre. Hein. Les gens me disaient dans le porte-à-porte, mais qui me dit que le livre, il est pas faux? Ben, c'est pas un livre, c'est 66 livres en un, avec 39 personnes qui ont écrit, qui ne sont pas nécessairement rencontrées à des époques différentes. Et quand vous mettez les 66 livres ensemble, vous êtes incapable de trouver une contradiction. Tous les livres s'enchaînent un dans l'autre. C'est surnaturel. C'est la parole de Dieu. C'est pas un livre sacré, la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas menteur. Dieu dit la vérité. Et ce qu'il a écrit, ce qu'il a prophétisé, ce qu'il a prédit, c'est arrivé. Et ce qui s'en vient, ça va arriver parce que c'est Dieu. Dieu contrôle l'univers. Mais l'homme, il laisse la liberté à l'homme d'agir comme bon lui semble parce que c'est ce qu'un homme a choisi. Alors moi, j'entends des gens qui crachent dans la face de Dieu, mais Dieu n'a rien à voir. Dieu nous aime. Si Dieu ne nous aimerait pas, il aurait fait tout disparaître au moment où l'homme a fait ce mauvais choix. Mais Dieu nous aime et Dieu veut qu'on passe l'éternité avec vous. Et j'espère que vous avez, si vous n'avez pas d'espoir dans l'au-delà ce soir, j'espère qu'à travers ce qu'on va regarder ensemble, et que vous puissiez vous dire, c'est possible ce message-là, finalement ça se tient ce message-là. C'est logique, c'est pas juste spirituel, c'est logique. Et que vous puissiez faire la même expérience que moi il y a 34 ans, que vous puissiez passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, que vous puissiez éviter d'être un enfant de colère, subir le jugement de Dieu à la fin des temps et devenir un enfant de Dieu, avoir cette espérance que le jour où vous allez comparaître devant Dieu, il va vous dire, toi, je te laisse entrer au ciel. Amen. C'est important, ça. Alors, voilà. Est-ce bien ce qu'enseigne le christianisme? Est-ce que enseigne que le fait qu'une bonne personne, être une bonne personne, vous donne la garantie que vous allez entrer au ciel lorsque vous allez mourir? Il y a un jeune homme qui croyait qu'il en était ainsi. Jésus va le mettre devant certaines vérités. Il va lui montrer que la grande majorité des gens se trompent lorsqu'il s'agit de définir ce qu'est une bonne personne. J'aimerais lire un texte qui se trouve dans l'Évangile ce soir, dans Matthieu, chapitre 19, au verset 16 à 26. Pour trouver des réponses à notre question à travers l'histoire de ce jeune homme qui se croyait être une bonne personne. Et les réponses de Jésus vont le décevoir énormément. Parce qu'il pensait de gagner son ciel, ce jeune homme. Il pensait qu'il mériterait d'aller au ciel sur la base de ses bonnes œuvres. Et quand on lit les écrits bibliques, la seule chose qu'on peut mériter, si Dieu nous juge en fonction de sa justice, de sa sainteté, la seule chose qu'on peut mériter, je m'excuse d'utiliser le mot pour ceux qui ne sont pas familiers, la seule chose que l'homme peut mériter, c'est l'enfer. Et ce n'est pas l'enfer sur la terre. L'enfer, c'est terrible quand on regarde la description que la Bible en donne. C'est épouvantable de passer l'éternité en enfer. C'est épouvantable. Et ce jeune homme, il va être déçu. Il va être déçu. Il aurait pensé que Jésus aurait embarqué dans son trip, entre guillemets, dans son voyage, dans sa pensée, mais Jésus n'a jamais fait de compromis. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix de sa vie pour ne pas faire de compromis. Et il va parler à ce jeune homme. Verset 16 et suivant. Et voici, un homme s'approcha, il dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? Le faire, ça c'est religieux. Qu'est-ce que je peux faire pour mériter le ciel? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? » lui dit le jeune homme. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était très riche. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, c'est la vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Et je vous déclare encore ceci, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. » Et il est écrit dans un autre évangile, dans l'évangile de Marc, que Jésus regarda le jeune homme et il l'aima. Chers amis, ce soir, Dieu est dans le ciel, mais le regard de Dieu couvre toute la terre en même temps, couvre tout l'univers en même temps. Il n'y a rien qui échappe au regard de Dieu. Dieu vous regarde ce soir, je peux vous dire que Dieu vous aime. Que vous puissiez entendre l'Évangile peut-être pour la première fois de votre vie, je peux vous dire que Dieu vous aime. Dieu ne vous aime pas sur la base de ce que vous avez fait. Dieu vous aime sur la base de ce que Jésus a fait. La Bible dit que Dieu est amour, mais Dieu, ce n'est pas un imbécile non plus. Dieu, ce n'est pas un bouffon. On ne lui passe pas n'importe quoi entre les pattes. Hein. Dieu voit tout. Dieu lit dans nos cœurs. Il sait quand on se moque de lui. Il sait quand on vit des vies qui sont complètement à côté de ce que Jésus a prêché. Mais Dieu nous aime. Ça ne diminue pas pour autant l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et vous avez une opportunité extraordinaire, peu importe l'âge que vous avez ce soir, peut-être pour la seule fois, la première et la seule fois de votre vie, d'entendre l'Évangile. Et l'Évangile, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1 que l'Évangile, eh bien, elle nous informe, elle nous révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui, et c'est par la foi seulement et pour la foi. Il y a des choses qui me font plaisir chez ce jeune homme, pardon. Contrairement à la plupart des gens, il cherche. Il pose à Jésus la question des questions. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Sa question, elle révèle son état d'âme. Je ne connais pas votre état d'âme ce matin, cet après-midi, ce soir, pardon. Mais, oui, d'habitude, c'est le matin, excusez-moi. Décalage horaire. Je ne connais pas votre état d'âme ce soir. Mais sa question, elle révèle son état d'âme. C'est quelqu'un qui est en recherche. Et honnêtement, je sais que plus on avance en âge et plus il est difficile de croire, parce que les expériences de la vie, les mauvaises expériences de la vie, les coups bas qu'on nous a faits dans nos vies, ça endurcit notre cœur. Non seulement par rapport à notre prochain, mais aussi par rapport à Dieu qui n'a rien à voir là-dedans. Parce que ce n'est pas le monde que Dieu a voulu avoir. Sa question, elle révèle son état d'âme. Il me semble qu'elle révèle au moins qu'il croit qu'il y a une vie après la mort. C'est quelqu'un qui se dit, je ne suis pas là simplement pour vivre et mourir et puis c'est terminé. Il y a une vie après la mort et cette vie-là, je vais avoir la certitude avant de mourir de savoir où j'irai, où j'irai. C'est une bonne question qu'il pose et sa préoccupation me paraît parfaitement sensée. J'aimerais voir plus de gens avoir ce type de préoccupation-là. J'ai rencontré un homme de 80 ans cette semaine. Et qu'un monsieur qui bricole des petits trains électriques, il a passé sa vie à bricoler des trains électriques, des villages de trains, ainsi de suite. Et je lui ai demandé s'il croyait, s'il était croyant, il m'a dit « je suis athée ». Mais athée, je pense qu'il y a des degrés d'athéisme, parce que cet homme, j'avais l'impression de parler à un animal. J'ai dit « mais est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose ?» Non, il n'y a rien après la mort, mais j'ai dit « vous êtes quand même pas, vous ne comparaissez pas même au niveau d'un cheval, d'une vache, d'un chien ». Vous, quand même, vous pensez un peu supérieur à ça, quoi. Non, moi je meurs, on m'enterre, je pourris, on m'enterre, c'est terminé. C'est triste d'entendre un homme parler comme ça, quoi. C'est triste, hein? Et quand on parle de cette façon-là, ça vous démontre la grande souffrance qu'il y a dans le cœur de l'être humain, hein? Le désespoir qu'il y a dans le cœur de l'être humain, quoi. Qu'on puisse regarder un chien et dire, moi, j'ai pas plus d'espérance que ce chien, quoi, que ce chat, qu'un rat, qu'une souris, qu'une fourmi. C'est triste d'entendre des gens. Mais je les comprends aussi quand je les écoute. Hein? La vie est difficile. La vie est méchante. On peut se promener sur le trottoir, un imbécile dépose une bombe dans une poubelle, ça nous saute en plein visage. Hein? On ne sait jamais à quel moment on va disparaître. On est dans ce monde. L'important, c'est de savoir où je vais passer l'éternité, parce que ça, c'est la chose la plus importante. On est sur la terre pour déterminer où on va passer l'éternité. Dieu nous a ouvert à travers Jésus-Christ, Dieu nous a ouvert les portes du ciel. Ce n'est pas lui qui va les fermer. C'est nous qui fermons les portes du ciel sur les décisions qu'on va prendre par rapport à l'éternité. C'est une bonne question qu'il pose et sa préoccupation me paraît parfaitement sensée. J'aimerais voir plus de gens avoir ce type de préoccupation-là aujourd'hui. Et c'est peut-être votre cas ce soir. Il vous arrive peut-être de vous demander de temps en temps, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la certitude d'entrer au ciel? Pour le jeune homme, c'est important d'avoir la certitude qu'il va aller au ciel, parce qu'il sait et on lui a enseigné que s'il y a un paradis, il y a aussi un enfer. Même si malgré tout il pose la bonne question, il le fait à partir de la façon dont ceux qui s'imaginent ou qui se considèrent bons s'imaginent qu'ils vont entrer au ciel, c'est-à-dire sur la base de leur mérite. Que dois-je faire pour mériter la vie éternelle? La deuxième chose à remarquer, c'est la façon dont Jésus va répondre au jeune homme. Il va lui répondre en lui posant une question. Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? En d'autres mots, Jésus essaye d'aller directement au cœur de la question, à savoir que personne n'est bon excepté Dieu. Chers amis, qu'y a-t-il de vraiment bon dans l'être humain qui puisse lui permettre de répondre aux fantastiques exigences d'un Dieu saint? À travers la bouche du prophète Jérémie, Dieu a dit, « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? » C'est vrai, hein? Qui peut le connaître? Celui qui a commis des attentats à Houston la semaine passée, on a interrogé son voisin. Vous savez ce qu'a dit son voisin? Est-ce que vous avez douté que ce monsieur-là, on demande au voisin, est-ce que vous avez douté que ce monsieur-là, il y avait quelque chose qui n'allait pas? C'est une bonne personne, un gars sympathique, quelqu'un de bien, j'ai jamais eu un bon voisin comme lui. Ouais. On ne connaît pas notre cœur. Hein? Il y a des gens qui ont des peines d'amour, qui trouvent le moyen d'assassiner leur ancienne flamme, hein? Ou leur ancien flambeau, quoi. Hein? Ouais. On ne connaît pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, hein? On ne se connaît pas soi-même, mais Dieu nous connaît. Dieu sait ce dont nous sommes faits. Et Dieu veut nous donner sa paix. Dieu veut nous donner sa joie. Et c'est ce que les gens cherchent à l'extérieur. J'ai été extrêmement étonné cette semaine de voir que nos jeunes de 16 et 17 ans cherchent la vérité. Comment ces jeunes ont besoin d'être encadrés. Malheureusement, ça peut être à travers des sectes, ça peut être à travers toutes sortes de mouvements très fermés qu'ils risquent de se faire piéger. Et on me dit, les jeunes me disent, écoute, j'ai pas la paix, j'ai pas la joie, j'ai plus d'ambition, il n'y a plus de motivation pour continuer à vivre. 16, 17 ans. Et je l'ai déjà dit un dimanche il y a quelques semaines, les Belges avec les Québécois, on est les champions du suicide chez les adolescents, dans le monde. Alors, c'est quand même pas parce que tout va bien. Pourtant, Jésus répond à nos besoins. Comme nous l'avons mentionné il y a quelques instants, le raisonnement du jeune homme est faussé dès le début en pensant que quelqu'un est capable de faire ce qui est bien, de répondre aux exigences de Dieu et de gagner ainsi le droit d'entrer au ciel. Pour faire valoir son point de vue, Jésus dit s'il veut avoir la vie éternelle, il doit obéir aux commandements. Et en disant cela, Jésus n'est pas en train de sous-entendre que le jeune homme peut entrer au ciel en faisant de bonnes œuvres. Au contraire, il est plutôt en train de remettre en question les suppositions du jeune homme, en lui démontrant qu'il a mal saisi le principe de la loi et sa capacité à obéir à la loi. Et la réponse du jeune homme, elle est très révélatrice ici. Lorsque Jésus lui dit qu'il doit obéir aux commandements, eh bien, qu'est-ce que dit le jeune homme? Le jeune homme, il lui demande, lesquels je dois observer? Et Jésus poursuit gentiment sa discussion avec le jeune homme, afin qu'il se rende compte jusqu'à quel point il se trompe, en citant le deuxième commandement qui parle de la relation que nous devons avoir avec les autres. Vous pouvez pressentir sentir la frustration du jeune homme dans la réponse qu'il va donner à Jésus lorsqu'il lui dit qu'il a observé toutes ces choses depuis sa jeunesse. Et ici, je pense qu'on peut faire deux remarques. D'abord, ce qui est ironique dans la réponse du jeune homme, c'est lorsqu'il dit qu'il a toujours observé tous les commandements. Il venait de désobéir pourtant au premier commandement qui concerne le mensonge. S'il avait été vraiment honnête, il aurait dit qu'il avait fait tout son possible pour observer les commandements à chaque jour, mais qu'il avait échoué à chaque fois qu'il avait tenté d'obéir à tous les commandements. Il avait une compréhension superficielle de la loi et une opinion exagérée de sa propre capacité à observer tous les commandements. Deuxième remarque, il savait qu'il n'était pas suffisamment bon puisqu'il dit, regardez ce qu'il dit à Jésus. Que me manque-t-il encore? S'il avait été parfaitement bon, il n'aurait pas posé cette question-là. Il aurait dit, Jésus, j'ai tout, moi. Je n'ai même pas besoin de toi, Jésus, j'ai tout. Non, il écoute Jésus lui parler des commandements, il dit, « Que me manque-t-il encore? » Et en posant cette question, il reconnaît le fait que malgré tous les efforts qu'il a fait jusqu'à maintenant, il lui manque quelque chose et il veut savoir ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle. « Parce que si je devais mourir ce soir, se dit-il, je voudrais être sûr de passer l'éternité dans la présence de Dieu. Je suis pourtant un jeune homme sérieux, j'observe les commandements, je vais à l'église à tous les dimanches, je prie, je respecte mes parents. » « Je n'ai ni tué ni volé, je ne mens pas, se dit-il. Cet homme est vraiment sympathique, n'est-ce pas? On lui donnerait le bon Dieu sans confession. » Et pourtant, sa réponse révèle ses illusions, chers amis. Au fond, il n'a pas compris la loi. Quand un homme peut dire, comme ce jeune homme, « J'ai observé toutes ces choses », il s'exprime comme certaines personnes s'expriment aujourd'hui lorsqu'elles disent, « Je n'ai jamais rien fait de mal. » J'ai rencontré une dame de 82 ans avant-hier, 82. J'ai dit, est-ce que vous avez commis des péchés dans votre vie? Et elle m'a dit non. un petit mensonge, essayer de diminuer la grosseur du mensonge. Elle m'a dit non. Et avec tristesse, je lui ai dit, « Je suis triste de vous annoncer que Jésus n'est pas venu pour vous. » Parce que Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour les justes, pour ceux qui n'ont jamais péché. Je suis venu pour les malades. Je suis venu pour les pécheurs. » Jésus n'est pas mort sur cette croix pour les justes. Il est mort pour les pécheurs comme vous et comme moi. Si on avait été juste, il n'aurait pas eu besoin de mourir. Mais il est venu prendre sur lui notre péché, mon péché, afin qu'on puisse recevoir la justice de Dieu et savoir ouvrir les portes du paradis. Et ça, ce n'est pas les œuvres d'une religion. Ça, c'est l'œuvre parfaite accomplie par Jésus sur la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Il vaudrait peut-être mieux... On continue. Jésus est en train de lui dire ici, tu t'illusionnes, jeune homme. Tu n'as pas tout observé, loin de là. Et avec ses illusions, il y a certainement une bonne dose d'orgueil chez ce jeune homme. Alors Jésus va maintenant confronter ce jeune homme qui n'avait rien à se reprocher. Et il va mettre en lumière, en une phrase, où se trouve le véritable problème, où se trouve l'idole dans ce cœur et quel est le remède face à la situation présente. Jésus va lui dire au verset 21, « Si tu souhaites être parfait, en d'autres mots, si tu veux aller jusqu'au bout, si tu veux obtenir cette vie éternelle, alors vends ce que tu as, ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis il dit, « Viens et suis-moi. » Est-ce que la loi demande de tout vendre? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on sort ici ce soir pour vendre tout ce qu'on a? Non, c'est pas ce que la loi demande. Mais Jésus avait identifié parfaitement le point faible de ce jeune homme. Il était attaché à l'argent. Et c'est là qu'il va frapper au cœur du jeune homme. La grande richesse de cet homme était devenu une idole dans sa vie. Il affirmait avoir observé tous les commandements. En réalité, il ne pouvait même pas obéir au premier commandement qui dit que nous ne devons pas avoir d'autre Dieu que de Dieu créateur. Son Dieu, c'était son argent. Il est écrit que le jeune homme, c'est triste, hein? Il est écrit que le jeune homme tourna le dos à Jésus et qu'il s'en alla tout triste. Car son Dieu, c'était ses biens. Et c'est ce qu'il va choisir de garder, ses richesses, plutôt que de suivre Jésus et de s'amasser des richesses dans le ciel. Et si ce soir vous avez de la difficulté à accepter ce message de l'Évangile, sans porter de jugement, j'aimerais vous poser une question. Y a-t-il une petite idole dans votre vie qui vous empêcherait de faire ce pas? Ce n'est pas nécessairement les richesses. Ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher de dire, « Moi, je dois céder ça pour être capable de laisser Jésus entrer dans ma vie ce soir? » Au fond, qu'essayait de faire Jésus ici? Il lui demande simplement de un transfert de confiance. « Jeune homme! » Tu as confiance dans tes richesses, tu as confiance dans ta bonne éducation, tu as confiance dans ta bonne réputation, tu as confiance dans ton obéissance à la loi, eh bien, tout cela, abandonne-le. Et puis, suis-moi, cesse de mettre ta confiance dans ce que tu es, dans ce que tu as, et mets ta confiance en moi. Et c'est vrai, quand on parle avec les gens, ils placent leur confiance dans tout ce qu'ils vont devoir abandonner un jour. Et ils refusent de faire confiance à ce qui va durer pour l'éternité. Jésus a dit, « Amassez-vous des richesses qui ne rouilleront pas, dont la teigne et la rouille ne pourront pas détruire. Amassez-vous ces richesses dans le ciel. » Et on voit des gens qui perdent leur vie à essayer de la gagner à l'extérieur. Mais le jeune homme riche n'a pas voulu accepter ce que Jésus disait. Il n'a pas voulu reconnaître qu'il n'obéissait pas à la loi. Il n'a pas voulu reconnaître qu'il avait besoin de placer sa confiance réellement en Dieu. Et Jésus va se tourner alors vers ses disciples, pour leur enseigner un principe. Il va utiliser une comparaison qui va nous paraître complètement folle et complètement absurde. Il dit, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et à Jérusalem, il y avait une porte qui, le haut s'était fermé et le bas était ouvert. Et le chameau, il devait passer pour entrer à un endroit à Jérusalem, il devait passer par le bas de la porte, ce qu'on appelait l'aiguille de la porte. Alors, vous imaginez, le chameau, déjà, quand on le voit à genoux dans les films, ou en réalité, essayer de faire avancer un chameau quand il y a deux genoux par terre, bien, c'est tout un exploit. C'est très, très difficile. Il faut que le maître tire sur la corde, puis qu'il y en ait un autre qui lui pousse dans le derrière pour qu'il avance, parce que sans ça, le chameau, il risque de rester coincé dans la porte. Et c'est, je trouve que l'illustration, elle est excellente, quoi. Elle est excellente. Il dit, autant il est difficile, un chameau, de réussir de passer à travers ce petit carreau, bien, autant il en est de même pour le riche. Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus venait de dire a certainement choqué les disciples qui pensaient comme à notre époque d'ailleurs, hein, que posséder beaucoup de biens était un signe de bénédiction et de capacité. Mais Jésus voulait montrer jusqu'à quel point les richesses peuvent devenir un piège pour les gens en leur faisant croire qu'ils sont à sécurité et à l'abri de tout. J'ai eu l'occasion d'aller à la maison de repos ici, Domaine des Moulins, dont la directrice est ici ce soir. Je tiens à la remercier parce qu'elle nous aide durant cette semaine. Elle nous fournit vraiment, avec gracieuseté, nous fournit la soupe ici le midi. Mais j'entends le témoignage de gens à la maison de repos et madame, elle peut confirmer. Il y a des gens qui ne sont pas encore morts et les enfants viennent se faire signer de force les documents aux parents pour qu'ils leur donnent leur maison. Et puis quand les parents, on a réussi à faire signer les parents, eh bien on s'empare de la maison et on ne vient plus jamais revoir nos mères et nos pères. Il y a des gens, ça fait des années, qui sont là, qui n'ont pas eu de visite. Pourquoi? Parce que c'est ça qui mène le monde aujourd'hui. Et on est prêt à tuer. On est prêt à tuer pour avoir l'argent. On est prêt à tuer nos parents. On est prêt à démolir nos parents, à les abandonner pour vivre avec, entre guillemets, la joie éphémère et superficielle que l'argent peut nous donner. Les disciples dirent alors à Jésus, « Qui alors peut être sauvé? » Mais qui peut être sauvé dans ce monde si c'en est ainsi, Seigneur? Et Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Voilà la grande leçon de ce texte. Aux hommes, cela est possible, est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Aucune religion, aucune philosophie quelconque, et encore moins le fait d'être une bonne personne, peut garantir à quelqu'un qu'il peut avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que personne, personne ne peut prétendre être une bonne personne. Si je suis une bonne personne et que je m'installe uniquement dans ce cadre-là, je vais devoir vous donner ma définition de ce que c'est qu'une bonne personne pour me sentir en sécurité. Et je peux faire le tour et vous questionner séparément sans que personne n'entende et je vais avoir des définitions différentes de ce que c'est qu'une bonne personne. On en a entendu toute la semaine dans les rencontres qu'on a eues. Les gens ont leur propre définition de ce qu'est une bonne personne parce qu'ils ne veulent pas se sentir coupables et parce qu'aussi ça les valorise. Il n'y a personne, quand je suis allé le voir, je lui ai dit, c'est quoi une bonne personne pour vous? Il n'y a personne qui m'a dit, je ne suis pas capable de répondre, je suis un pourri. Il n'y a personne qui m'a dit ça. Hein? Il n'y a personne. Hein? Même le plus pourri des pourris va essayer de trouver une qualité qu'il a pour essayer de remonter la tête en dessous de l'eau. Hein? C'est l'être humain, hein? C'est l'être humain. C'est important pour nous. Hein? C'est important pour nous qu'on soit valorisés. Il y a tellement de gens à l'extérieur qui ont été dévalorisés, assommés à coups de jurons et de toutes sortes de mots, par des parents, par des profs, par un, par l'autre, même par des contremaîtres. Même. On a besoin d'être valorisés. On a besoin d'être valorisés parce que dans notre péché, on a perdu de vue la valeur qu'on représente aux yeux de Dieu. Et on cherchera toujours à être valorisé tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas fait cette rencontre miraculeuse avec la personne de Jésus-Christ. Et on ne sera jamais satisfait dans quoi que ce soit, peu importe qu'on ait un travail, deux travails, on ne sera jamais satisfait tant qu'on n'aura pas trouvé notre identité qui se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, il a perdu son identité. Et le monde est dans une crise d'identité terrible et on retrouve cette crise d'identité perdue dans la personne de Jésus-Christ. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu et que le salaire du péché, que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Heureusement que Dieu n'a pas attendu que nous soyons bons pour envoyer Jésus. Dieu nous a montré jusqu'à quel point il nous aime. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs, nous dit la parole. Et c'est intéressant, cette semaine, il y a des gens qui réalisaient que Jésus était mort pour des pécheurs, qu'il était mort pour des gens qui le détestaient. Il y a des gens quand même dans le porte-à-porte qui étaient assez francs et sincères pour dire, écoute-moi, si on me demandait de donner mon fils, pour des gens qui ne m'aiment pas, jamais je donnerais mon fils. Je ferais mourir mon fils, mais pour sauver quelqu'un qui ne m'aime pas. Et la Bible nous dit, alors que nous étions des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime pour nous aimer. Il nous aime depuis toute éternité. L'assurance de pouvoir entrer au ciel n'est pas basée sur notre bonté, mais sur la bonté de Dieu. Si de notre bouche nous affirmons que Jésus est le Seigneur, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, nous serons sauvés, nous dit la parole. C'est-à-dire que nous aurons la certitude que tous nos péchés sont effacés et que nous passerons l'éternité au paradis. Vous savez, j'ai parlé avec un musulman cette semaine. Le musulman, il est comme la plupart des religions, il n'y a aucune certitude que ses péchés sont effacés. Et la première question que je posais à un musulman, je disais, écoute, est-ce que tu as la certitude de pouvoir entrer au paradis un jour? Ils n'ont pas la certitude d'entrer au paradis comme toutes les religions. Il n'y a aucune religion qui peut te confirmer que tu peux entrer au paradis. Et d'ailleurs, ça, c'était le début de ma recherche spirituelle. Que j'étais en train de me préparer à faire un voyage pour l'éternité, puis je ne sais même pas où je vais aller, puis je ne sais même pas où je vais commencer à embarquer. J'ai voulu avoir ma réponse. Ma religion ne pouvait pas me donner ma réponse. J'ai dit, où je peux trouver ma réponse? Lis l'Évangile de Jean, tu vas trouver ma réponse. J'ai trouvé la réponse dans l'Évangile de Jean. Et ça a complètement bouleversé ma vie. Aujourd'hui, je sais que mes péchés sont effacés. Et je sais que quand je vais comparaître devant Dieu, ce n'est pas en fonction de ce que j'ai fait comme bien. Ce n'est pas en fonction des bonnes œuvres que j'ai faites. C'est en fonction de l'œuvre parfaite que Jésus a accomplie sur la croix. J'ai simplement eu à accepter ça. C'est extraordinaire. Et vous savez pourquoi c'est difficile pour les gens à accepter ce message? Parce qu'on a été éduqués à ne pas dépendre des autres dans notre vie. C'est un signe de faiblesse de dépendre des autres. Et personne ne veut dépendre de son salut. Personne ne veut dépendre sur quelqu'un d'autre qui est Jésus. Alors le religieux qui sommeille en nous, il veut travailler pour essayer de gagner son ciel. Et la Bible, elle est claire, catégorique. Il n'y a personne qui peut mériter d'entrer au ciel, peu importe la religion qu'il pratique. Sinon, on est en train de dire à Dieu qu'il s'est trompé en envoyant Jésus. N'est-ce pas, si de notre bouche nous affirmons que Jésus est le Seigneur et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ramené de la mort à la vie, nous serons sauvés, c'est-à-dire que nous aurons la certitude, je le répète, que tous nos péchés sont effacés et que nous passerons l'éternité au paradis. Et à ce musulman, pour terminer ce que j'avais commencé, je lui disais, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu sais si tu peux aller au paradis? Il me disait, non, moi je ne sais pas, ça dépend des bonnes œuvres que j'ai faites. Toutes les religions ont des bonnes œuvres. Moi, je suis des bonnes œuvres puis mes péchés, c'est une balance. Et si j'arrive au ciel puis que la balance des bonnes œuvres pèse plus que mes péchés, Dieu va me laisser entrer au ciel. Mais vous vous imaginez comment un musulman peut mourir stressé parce qu'il ne sait pas la quantité de bonnes œuvres qu'il a faites, puis il ne sait pas, avant de partir, la quantité de péchés qu'il a faites. Alors lui, il va tout découvrir ça en haut. Et il va découvrir en haut que sa religion, il n'a pas enseigné vraiment ce qu'est le principe biblique, parce que le principe biblique, il dit qu'on n'entre pas au ciel sur la base de nos bonnes œuvres, on entre au ciel parce qu'on a reconnu l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est triste de découvrir ça après. Chers amis, un jour, Jésus était en train de parler avec des gens qui affirmaient être des bonnes personnes. C'était des personnes très religieuses. Et Jésus va leur dire, je vous le déclare, c'est la vérité, les collecteurs d'impôts, qui à l'époque étaient considérés comme des voleurs, et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ces personnes se croyaient pécheresses et qu'elles refusaient. Pourquoi? Parce que ces bonnes personnes, elles refusaient de reconnaître qu'elles étaient des pécheurs et elles refusaient de se repentir. Comme ce malfaiteur sur la croix, nous devons nous repentir de nos péchés et placer notre confiance en Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés. Seul Jésus est qualifié pour mériter le ciel. Et j'aimerais simplement, rapidement, je ne veux pas vous garder trop longtemps ici, j'aimerais simplement vous lire quelque chose dans Luc à propos de ce malfaiteur. Moi, ça me touche énormément. Il y a deux malfaiteurs, un à gauche et un à droite. Jésus est au centre. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus. Un des deux injuriait Jésus. Les deux, d'abord, au début. Dans l'autre évangile, vous lisez, les deux ont commencé à l'injurier. Ils se moquaient de lui. Mais l'un des malfaiteurs crucifié injuriait Jésus en disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, c'est juste que nous recevons parce que nous l'avons mérité à cause des crimes que nous avons faits. Mais celui-ci, ce Jésus, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, quand tu reviendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Frères et sœurs, chers amis, le malfaiteur, il détruit toutes les religions qui existent au monde. Il a les deux pieds cloués, il a les deux mains clouées. Dites-moi combien d'œuvres il a faites pour être capable d'entrer au ciel. Il n'en a pas fait une. Il était incapable de faire des œuvres. Mais il a ouvert la bouche, par contre. Il a ouvert la bouche et c'est ce que le Seigneur nous demande. Ouvre ta bouche, confesse ton péché. Confesse que tu es pécheur. C'est exactement ce que le malfaiteur a fait. À un moment donné, écoutez, il comprend, il a saisi le message. Il a été témoin du procès de Jésus. Il a vu que Jésus n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, il s'est laissé condamner. Il l'a suivi quand il montait les marches, quand il montait vers le calvaire avec la croix. Ils les ont suivis, les deux malfaiteurs. Ils l'ont suivi. Ils ont vu la façon qu'on l'a crucifié. Il n'a pas ouvert la bouche. Ils l'ont entendu quand il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils l'ont entendu prier pour ses ennemis. Et là, il y a un malfaiteur, à un moment donné, que la lumière, elle s'éclaire, et qui reprend l'autre, son ancien partenaire de crime, et qui dit, ne crains-tu pas Dieu? Arrête de le blasphémer. Lui, il n'a rien fait, mais nous, on reçoit la juste condamnation qu'on mérite pour nos crimes. On est des bandits, nous sommes des meurtriers. Nous, on mérite d'être crucifiés, mais pas lui. Et regardez la confession de foi de ce malfaiteur. Il confesse, il reconnaît devant Jésus le fait qu'il dise que nous, on mérite. Il est en train de dire à Jésus, écoute, moi, je mérite d'être condamné à cause des péchés que j'ai commis, à cause de mes crimes. Et il regarde Jésus. Et il reconnaît à travers Jésus que Jésus non seulement est mort pour ses péchés, mais il reconnaît aussi qu'un jour, il va être ramené de la mort à la vie et qu'il viendra le chercher. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rappelle-toi de moi, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. L'exemple ici, elle est sidérante. Parce qu'un malfaiteur, ça devait faire des années qu'il avait perdu son titre de bonne personne. Le malfaiteur, c'était un pourri. Le malfaiteur, c'était un déchet de la société. Le malfaiteur, c'était un mal-aimé. Mais quand il a entendu les paroles de Jésus prononcées sur la croix, il a compris que l'homme qui était là avait été accusé injustement, condamné injustement, et que l'homme qui était à ses côtés prenait sur lui le poids de tous ses péchés. Et il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Et il y a tellement de bonnes personnes qui sont incapables de reconnaître, de te confesser, de dire, « C'est vrai, Seigneur, je ne suis pas parfait, c'est vrai que je suis pécheur. » Et je reconnais que j'ai besoin de toi pour entrer au ciel. Les bonnes personnes, c'est extrêmement difficile de les amener à faire ce pas de foi. Alors que des malfaiteurs, des délaissés, des démunis, qui cherchent, qui sont dans la rue, qui participent à des crimes parce qu'ils ont été mal aimés, parce qu'ils ont été rejetés, lorsqu'ils découvrent l'amour que Dieu a pour eux, lorsqu'il découvre que Dieu ne refuse personne qui vient à lui. Jésus a dit, je ne rejette personne qui vient à moi, peu importe ce que vous avez fait. Et Jean-Baptiste, quand il voit arriver Jésus-Christ pour la première fois, il dit, voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Chers amis, je vais terminer avec ceux qui viennent ici, là, ils connaissent un petit peu cette illustration. Je l'ai faite dans le porte-à-porte. Imaginez que ça, oubliez que c'est une Bible. Imaginez que ça représente tous les péchés que vous avez commis dans vos vies. Donc, ceux qui ont plus de 80, c'est peut-être l'épaisseur qui vaut. Ceux qui ont moins de 80, qui ont 50 ans, ça peut être moins épais. Mais essayez d'imaginer, sans vous oublier que c'est la Bible, et que ça ici, ça contient tous vos péchés, vos mauvaises pensées, vos mauvaises paroles, tout ce que vous avez dit de mal, tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie. C'est contenu dans ce livre-là. Toute la liste est là. Ça, c'est votre. Ça, c'est vous. Voici ce que vous avez fait de mal pendant toute votre vie. Ça, c'est Jésus. Jésus, la Bible nous dit qu'il était sans péché. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien pour Jésus. La Bible nous dit que Jésus a pris sur lui tous les péchés. Quand je vais comparer devant Dieu, qu'est-ce qui arrive si Jésus a pris tous les péchés? Quelqu'un peut me répondre? Je reçois la justice de Jésus, je suis sans péché. Et c'est ça qui m'ouvre les portes du ciel. C'est ça qui fait de moi un être qui a une nouvelle espérance pour l'éternité, pour maintenant et pour l'éternité. Jésus a été condamné pour mes péchés à ma place. Si vous mourrez ce soir ou demain matin, avec vos péchés, vous ne passerez jamais les portes du ciel. Et je vais être très honnête avec vous, parce que, pas parce que je suis pasteur, parce que je vous aime, mais je dois vous dire que l'enfer est réservé à ceux qui meurent avec leurs péchés, chargés de leurs péchés. Et
que Dieu a tout fait pour éviter à tous les êtres humains de mourir avec leurs péchés. Il leur donne l'opportunité d'accepter que Jésus prenne sur lui tous vos péchés, tous les péchés. Le message de l'Évangile est simple. Simple à annoncer, difficile à accepter. Et pendant qu'on termine, je vous inviterai simplement à pencher la tête, fermer les yeux. On va terminer par un petit moment de prière. Comme ce malfaiteur, nous devons nous repentir de nos péchés et placer notre confiance en Jésus pour recevoir le pardon de nos péchés. Seul Jésus, nous dit la Bible, est qualifié pour nous mériter le ciel. Et en donnant sa vie sur la croix pour nos péchés, comme je l'ai dit, il a pris sur lui la condamnation que nous méritions. Et parce que nous croyons dans ce sacrifice, Dieu nous rend juste devant lui. Pour ceux qui le veulent bien, j'aimerais vous inviter à faire une prière dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de la haute voix. Simplement répétez dans votre cœur les paroles que je vais dire. Dieu connaît vos cœurs, Dieu connaît vos pensées, Dieu connaît aussi votre sincérité. Voici la prière que je vous invite à faire dans votre cœur. Si vous voulez recevoir le pardon de vos péchés et être sauvé du jugement à venir, voici la prière. Seigneur Dieu, je sais que tu veux me sauver parce que j'ai péché contre toi. J'ai vécu jusqu'à aujourd'hui pour moi-même, et je veux abandonner toute ambition personnelle pour faire maintenant ta volonté. Merci, Jésus, d'avoir payé sur la croix le prix exigé par la loi pour que mes péchés soient effacés en mourant pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts le troisième jour et que quiconque croit en toi est déjà passé de la mort à la vie. Seigneur Jésus, je te remets ma vie dès ce soir. Viens dans mon cœur, pardonne mon péché et sauve-moi, Jésus. Merci de m'avoir sauvé, Jésus. Commence à faire de moi la personne que tu veux que je sois. Je te donne entièrement mon cœur parce que je te fais confiance, Jésus. Amen. Pendant que les têtes sont baissées, que les yeux sont fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait cette prière pour la première fois ce soir? Simplement, levez votre main. Je vous donnerai de la littérature après. Merci pour cette main. Vous pouvez la baisser. Quelqu'un d'autre. Simplement, levez la main et la baisser. Je sais que ce n'est pas facile, il y a un combat. Ceux qui ont un combat, ça appelle ça un combat spirituel. Moi, quand on m'a fait faire cette prière, m'a invité à faire cette prière, j'ai entendu une petite voix qui me dit, pense à tout ce que tu vas perdre si tu lèves la main. Mais il ne m'a jamais dit tout ce que je gagnerais à lever la main. Et tout ce que je regrette, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ à 33 ans et pas l'avoir rencontré avant. Il y a des bêtises que je n'aurais pas faites dans ma vie. Une dernière fois, je ne veux pas insister. Si vous avez fait cette prière pour la première fois ce soir et que vous voulez marcher maintenant, vivre comme Jésus le demande, simplement levez votre main et la baisser. Amen. Je vous invite à vous lever. On va terminer cette réunion par un cantique. On vous invite, après la réunion, si vous avez du temps, vous n'êtes pas pressé, à prendre une tasse de café au sous-sol avec une pâtisserie et ça nous fera plaisir de vous recevoir. Et de prendre un temps, si vous avez d'autres questions après, de prendre un temps pour partager ensemble. Est-ce que...